C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme.
You talking to me? You talking to me? Well, who the hell else are you talking? You talking to me?
Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.
Eastwood. Clint Eastwood.
Marcello, come here.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes le mardi 10 décembre 2024, il est 14h sur l'horloge du studio d'O2 Radio où je me trouve pour un nouvel épisode de votre émission favorite, j'ai nommé Ciné 100 bien sûr. Et vous allez être bien et même très bien pendant l'heure qui vient. Tiens, saviez-vous que le 10 décembre est la journée internationale des droits de l'homme ? Hein ? Et c'est aussi le 10 décembre 1848 que fut élu Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République. Et c'est également ce jour-là que furent décernés les premiers prix Nobel. Alors, s'il y en a deux qui le méritent grandement, ce prix Nobel, ce sont assurément Anne-Lise et ses yeux tellement bleus qu'on pourrait y plonger. Oh, bonjour Anne-Lise.
Bonjour Patrick.
Comment allez-vous ?
Magnifique. Ça va et vous ?
Oh, je vais très bien. Et Jean-Jacques, qui est la justification de l'intelligence et de la propos. Oh. Bonjour Jean-Jacques.
Oh. Que c'est beau. C'est
ah,
beau.
Je suis poète.
Bonjour, bonjour. Oui,
vous allez bien ?
J'ai des doutes. Quand... oui, ouais, bonjour Patrick, bonjour Anne-Lise, tout va bien, oui.
Bon, alors aujourd'hui, dans Ciné 100, nous allons explorer une nouvelle année, d'accord ? Mais laquelle ?
Cette année-là.
Cette eh bien, année-là. Nous allons nous retrouver en 2015.
Ah oui !
C'est pas 2015 qui va être à l'époque, parce que depuis on a changé. La troisième année la plus chaude depuis le début des relevés. Le phénomène El Niño, vous savez, ces courants d'air d'altitude, là, eh bien, ce phénomène sera si intense que les météorologues américains le baptiseront avec humour Bruce Lee.
D'accord.
L'année commence par des tragédies. Et oui, ouais. Le 7 janvier, un attentat est commis au siège de Charlie Hebdo. Au total, 12 personnes trouvent la mort, dont le dessinateur Cabu, Sharp, Honoré, Tignou et Volonsky.
Et le lendemain, une policière est abattue. Puis le 9 janvier, une prise d'otage dirigée contre la communauté juive fait 4 morts à la porte de Vincennes. Le même jour, Michel Catalano est pris en otage dans son imprimerie par les frères Kouachi, les auteurs de l'attentat de Charlie Hebdo.
Eh bien, 5 ans après, sur France 24, il témoigne des difficultés à se reconstruire et de la nécessité à devenir quelqu'un d'autre pour continuer à vivre.
J'aimerais bien savoir comment ils ont pu arriver chez moi. Est-ce qu'ils avaient des gens qu'ils pouvaient connaître à ce moment-là dans la région ? Comment ils ont pu obtenir leurs armes ? Enfin, tout un tas de questions qui m'ont aussi hanté pendant les premiers mois. Et donc, c'est quelque chose auquel j'aimerais pouvoir avoir des réponses.
Véronique, sa femme, vit à ses côtés depuis 30 ans. Un soutien indéfectible pour le meilleur et pour le pire. Elle aussi attend ce procès.
Ça ne ramènera pas les personnes qui sont parties, ça n'effacera pas ce qu'on a vécu, mais ça permettra d'avancer et d'être une étape dans la reconstruction.
On peut redevenir un homme ordinaire, comme vous étiez, Michel Catalano, imprimeur en Île-de-France.
Au début, on essaie de redevenir comme on était avant. Très vite, on comprend que c'est pas possible, qu'on va devenir quelqu'un d'autre et autre chose. Je crois sincèrement que c'est plus possible. Donc, il faut que j'apprenne à vivre avec.
Oui. Et oui. Allez, on va passer aux 8 salopards, qui est un western de Quentin Tarantino.
Ça, c'est un rapport avec les frères Kouachi ?
Pas du tout. Aucun. Sorti le jour de Noël 2015.
Ouais.
C'est un film où l'on retrouve tout ce qui fait la marque du réalisateur. Des dialogues aiguisés, une violence stylisée et une tension palpable. Dans son 8e film, Tarantino plonge le spectateur dans une aventure claustrophobique située dans les neiges de l'Ouest américain au lendemain de la guerre de sécession.
Alors l'intrigue se concentre sur 8 personnages hauts en couleur, chacun avec son passé sanglant. Le film commence sur la route où le chasseur de primes John Hurt, interprété par Kurt Russell, escorte sa prisonnière Daisy Domergue, alias Jennifer Zazen Lee, dans la ville de Red Rock, où elle doit être pendue. En chemin, il rencontre entre autres un major confédéré, un ancien shérif, un mexicain et un cantonnier. Chacun d'eux a ses secrets et l'on se doute que les apparences sont trompeuses. Arrivé dans un refuge isolé, la tension monte et les alliances se font et se défont alors que les meurtres commencent à s'accumuler. Bande annonce.
Qu'est-ce qui peut pousser un homme à braver un blizzard et à tuer de sang-froid? Franchement, ça me dépasse. Vous seriez étonné de voir ce qu'un homme est capable de faire. Pas besoin de vous faire un dessin. Il reste de la place pour une personne. Je suis pas trop emballé à l'idée de voiturer des gens. Très confiant, votre gars, hein?
Pas vraiment.
Il n'est pas question que je passe plusieurs nuits sous le même toit qu'un Kidam si je sais pas qui c'est. Alors qui vous êtes?
Oh, la compagnie! Écoutez-moi bien. J'emmène cette femme se faire pendre. Il y a $10,000 de récompense. Ce fric est à moi, les petits gars.
Ça, c'est intéressant. Il y a un de ces gars qui est prêt à tuer toutes les personnes présentes ici.
Moi, j'aime mieux ça!
Minute, ça va trop vite. On ralentit la cadence.
Quand t'arriveras en enfer, dis-leur que c'est ici qui t'envoie.
Vous allez crever!
Il n'y a rien qui dit qu'il doit être facile, ce métier.
Il n'y a rien qui dit qu'il doit être si dur que ça.
Donc, les huit salopards se déroulent principalement dans un huis clos enneigé, ce qui permet à Tarantino de jouer avec le suspense et l'instinct de survie des personnages, mais aussi de concentrer son énergie sur les dialogues, véritables armes de destruction dans ce film. L'écriture est d'une grande finesse, mêlant humour noir, tension raciale et une critique acerbe de la justice et de la vengeance. Chaque personnage est comme une pièce d'un puzzle dont le but est de découvrir qui, dans cette galerie de salopards, est le plus dangereux.
La mise en scène avec l'utilisation de la pellicule 70 mm est une véritable prouesse technique. Elle permet au film de capturer une beauté froide et majestueuse, contrastée par la brutalité des scènes de violence, qui sont filmées avec la précision d'un chirurgien. Le jeu des acteurs est impressionnant avec une mention spéciale pour Jennifer Jason Leigh, son énergie brute et son cynisme qui désarment. Samuel L. Jackson dans le rôle de Major Marquis Warren est magistral dans ses répliques percutantes et sa présence magnétique domine l'écran.
Alors les personnages sont tous à leur manière des victimes et des bourreaux. Tarantino s'amuse à flouter les lignes entre les bons et les mauvais avec des dialogues qui brouillent les cartes, empêchant toute forme de jugement facile. Alors c'est un film où la morale, si elle existe, est suspendue dans l'air glacial de l'hiver entre le passé et le présent, la vengeance et la rédemption.
Les huit salopards est une œuvre ambitieuse, captivante et intense. Elle ne s'adresse pas à ceux qui cherchent des réponses simples, mais plutôt à ceux qui apprécient un film où le style et la substance se rencontrent. Un film qui, comme ses personnages, ne laisse personne indifférent.
Si c'est Ennio Morricone qui a composé la musique du film, la bande originale comprend aussi, entre autres chansons, Apple Blossom des White Stripes.
What seems to be the problem? All the ones you tell your troubles to, they don't really care for you. Come and tell me what you're thinking, 'cause just when the boat is sinking, a little light is blinking, and I will come and rescue you. Lots of girls walk around in tears, but that's not for you. You've been looking all around for years for someone to tell your troubles to. Come and sit with me and talk a while. Let me see your pretty little smile. Put your troubles in a little pile, and I will sort them out for you. That's not for you. You've been looking all around for years for someone to tell your troubles to. Come and sit with me and talk a while. Let me see your pretty little smile. Put your troubles in a little pile, and I will sort them out for you. I fall in love with you. I think I'll marry you.
En 2015, 10% de la population mondiale vit dans une extrême pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 1,90$ par jour. Et en même temps, le 7 février, le tableau de Paul Gauguin intitulé « Quand te maries-tu » est acheté par le Qatar pour 300 millions de dollars.
Ah ben, ça fait quelques bouches à nourrir, hein, quand même. Ouais. Hein. Alors, œuvre d'art recherchée pour les uns et bannie pour les autres. Le 5 mars, en Irak, l'État islamique détruit au bulldozer les ruines de Nimroud, capitale de la Syrie, entre 879 et 613 avant Jésus-Christ.
Les sportifs Camille Muffat, Florence Artaud et Alexis Vastine perdent la vie le 9 mars dans une collision durant l'émission de télévision Dropped.
Et le 14 mars, le cyclone Pam, l'un des pires cyclones de l'histoire du Pacifique, de force 5, ravage les îles de Vanuatu en Océanie.
Quelques heures après le passage du cyclone, les vents violents continuent de soulever de gigantesques vagues sur les côtes de l'archipel du Vanuatu. Dans les restes de leur maison, certains tentent de récupérer quelques effets. Des habitants qui décrivent 30 minutes de terreur absolue, des vents à plus de 300 km/h. Des arbres à terre, des habitations dévastées, un port méconnaissable. Les liaisons téléphoniques sont sévèrement endommagées. Les seules informations nous proviennent donc de Nouvelle-Calédonie, à 500 km de là.
Ils ont trouvé des dégâts énormes, surtout dans les parties de la capitale où les gens habitent dans des abris assez légers. Le gouvernement parle de 90% de dégâts sur les structures et les abris.
Le bilan humain est pour l'instant impossible à établir. L'ONU croit savoir qu'au moins 44 personnes sont décédées dans l'une des provinces de cet archipel de 270 000 habitants.
Le 2 décembre 2015 sort en France le film de Nanni Moretti, Mia Madre. Margherita est une réalisatrice de cinéma. Ces journées, elle les passe sur le tournage de son film dans lequel des ouvriers révoltés luttent contre un bataillon de policiers armés de matraques, de grenades lacrymogènes, de lances à eau. La raison, l'entreprise américaine qui vient de racheter leur usine s'apprête à les licencier.
Et alors, ces soirées, Margherita les passe à l'hôpital auprès de sa mère malade qui connaît de graves problèmes respiratoires et cardiaques. On lui annonce bientôt que ses jours sont comptés. Elle peut alors compter sur son frère Giovanni, un homme solide, calme, aimant, pour l'aider à accepter cette réalité inéluctable.
Margherita, concentrée sur son travail, assume toutes les responsabilités de réalisatrice et n'hésite pas dans sa vie privée à rompre sa relation amoureuse quand elle l'estime nécessaire aux grandes dames de son amant sagement quitté. Le cinéma est une industrie lourde qui suppose de nombreux techniciens et des décors imposants. Et c'est de la responsabilité du metteur en scène de rester fidèle à son film, qu'il s'agisse de la place de la caméra, des conditions de tournage ou du management des acteurs.
Ce travail incessant façonne Margherita. Elle fait preuve d'une passion tout aussi extrême que celle de son frère qui abandonne tout pour rester près de sa mère. Rien ne saurait faire dévier de leur voix Margherita et Giovanni, tant est grande la force inflexible qu'ils ont reçue de leur mère.
À ces questionnements d'artistes engagés se mêlent donc des angoisses d'ordre privé. Sa mère à l'hôpital, sa fille en pleine crise d'adolescence. Margherita parviendra-t-elle à se sentir à la hauteur de son travail comme dans sa famille ?
Alors, la distribution de Mia Madre compte Margherita Bouy dans le rôle de Margherita.
Ah oui.
John Turturro dans celui d'un célèbre acteur américain. Giulia Lazzarini dans celui de la mère et Nanni Moretti lui-même dans le rôle de Giovanni. On va retrouver trois d'entre eux lors d'une interview dans le cadre de la présentation du film au Festival de Cannes.
Pourquoi John Turturro, Nanni Moretti?
Ma perché mi piaceva il suo modo di recitare, non solo nei film dei fratelli Coen, ecco, non è un attore naturalistico e basta.
Parce que j'aime sa manière de jouer, même pas seulement dans les films des frères Coen. C'est pas juste un jeu naturaliste comme on voit souvent.
Oui.
C'è sempre una vena di follia che mi interessa.
Il y a toujours une veine de folie qui m'intéresse.
Margherita Bouy, ce thème vous a touché. Vous avez l'impression qu'avec ces métiers d'actrice, d'acteur, de réalisateur, on rate aussi des choses de la vie.
No, per me no, non è stato mai così. Non mi sono mai sentita così coinvolta nel mio lavoro da tralasciare le cose della mia vita. Può succedere, nel senso che succederebbe comunque, perché le nostre vite sono abbastanza già complicate. E quindi, però il lavoro, anzi, devo dire che è una cosa che ha completato la mia vita, non ha tolto niente.
Moi, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai jamais été aussi impliquée dans le travail au point de perdre de vue mon existence. Au contraire, je pense que le travail peut compléter la vie, mais jamais, sans jamais rien retirer.
John Turturro, vous avez cette sensation qu'avec des métiers comme celui-là, en étant acteur, avec la carrière que vous avez eue, avec des films prestigieux dans lesquels vous avez tourné, est-ce qu'on passe un peu à côté de sa vie ou pas? Est-ce qu'on arrive à maintenir un lien avec la réalité?
Sometimes that happens.
Quelquefois, ça peut se passer.
You try
on essaye.
To remain a full person,
de rester une personne intégrale, mais quelquefois c'est le coût de notre travail.
Alors, avant Mia Madre, Moretti avait déjà mis le deuil en scène. Il faut se souvenir du Palmé et la Chambre du Fils, magnifique tragédie, dans lequel un père de famille voyait son fils mourir dans un accident de plongée.
Mais c'est lors du tournage d'Habeus Papam qu'il a commencé à réfléchir au récit de Mia Madre, alors même que quelques éléments du film arrivaient pour de vrai au cinéaste, en réalité le décès de sa propre mère.
Dans Mia Madre, Moretti évoque donc son rapport au cinéma. Il montre la grandeur douloureuse à ne pas vouloir lâcher prise face à des décisions et des engagements. Alors en 2015, un certain Joseph Salvatore Morisi, chanteur, compositeur et musicien franco-italien, chante le portrait. Oui, mais alors il est plus connu sous le nom de Calogero. Dans sa chanson, il est aussi question de mère.
Il mélange au fond de sa tasse du miel. Il regarde par le vasistas le ciel. À chaque fois que passe un avion, il se dit que c'est peut-être elle qui passe au-dessus de sa maison. On lui a dit qu'elle était au ciel. Il rêve couché sur un parquet, dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin il le fait, trait pour trait, à partir d'un portrait. Il rêve couché sur un parquet, dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin. À sa maîtresse, pourquoi parent ne prend pas d'ess? Des câlins, il en voudrait tellement, ne serait-ce qu'un parent. Il rêve couché sur un parquet, dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin il le fait, trait pour trait, à partir d'un portrait. Couché sur un parquet, dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin il le fait, trait pour trait, à partir d'un portrait. Tous les soirs en secret, ce dessin il le fait, trait pour trait, à partir d'un portrait. Trait pour trait, à partir d'un portrait.
En cette année 2015, les épidémies ont de la suite dans les idées, oui. Notamment celle d'Ebola, qui fait plus de 10 000 morts en Afrique.
Un peu plus près de nous, le 24 mars, le vol 9525 de Germanwings s'écrase dans les Alpes françaises avec 150 personnes à bord.
Vous vous rappelez, si
il n'y a aucun survivant.
Le 27 mai...
Le pilote dépressif qui avait...
Oui, c'est un pilote qui avait plongé son avion.
C'est ça, qui avait
il venait
précipité.
D'être quitté par sa femme.
C'est ça.
Et alors, le 27 mai, vous disiez...
Donc, le 27 mai, le Nebraska devient le 19e État des États-Unis à abolir la peine de mort.
Ah.
Enfin, une bonne nouvelle,
oui.
Mais ça ne dure pas. Trois jours plus tard, en Inde, les autorités annoncent que la vague de chaleur en cours a fait plus de 2000 morts.
Et comme ce n'est pas suffisant, eh bien le 16 juin, l'homme d'affaires Donald Trump, vous voyez qui c'est, annonce sa candidature pour l'élection américaine de 2016. Annonce peu glorieuse. En tous les cas, aux antipodes du 3 juillet de la même année, où la dépouille de l'immense footballeur portugais Eusébio est transférée au Panthéon portugais à Lisbonne. Il devient ainsi le premier sportif à y faire son entrée.
Eusébio. La légende du football portugais a fait vendredi son entrée au Panthéon national. Les plus hautes personnalités, dont le président de la République, ont assisté à la cérémonie en hommage au champion, décédé le 5 janvier 2014, à l'âge de 71 ans. Né à Maputo, au Mozambique, alors colonie portugaise, Eusébio avait rejoint à 19 ans le Benfica, club qu'il ne quittera plus. Surnommé le roi, l'attaquant avait aussi mené l'équipe nationale à la troisième place lors du mondial 1966. Un an auparavant, il était devenu le premier noir à remporter le ballon d'or. Les décennies ont passé, Eusébio reste dans le cœur des Portugais. En 2014, des dizaines de milliers de Portugais étaient descendus dans la rue pour assister à ses obsèques. Eusébio, premier sportif à rejoindre le Panthéon, repose désormais aux côtés d'Amalia Rodriguez, la diva du fado.
Combien de fois j'ai vu les mêmes films qui repassent comme ça, deux, trois fois dans l'année? Moi, je trouve que c'est dingue.
Vous croyez?
C'est dingue.
Eh bien, comme le dit notre amie Anne-Lise, c'est dingue, effectivement. Oui. Vous l'avez reconnu, ce petit jingle?
Mais quel hein
jingle? Bah,
celui que vous venez d'entendre.
Ah,
c'est celui qui nous rappelle que nous allons passer à une petite chronique qui s'appelle Ciné, Télé, Canapé, où on va pouvoir regarder des films dans notre canapé qui passent à la télé.
Je comprends rien du tout. En fait, c'est pas grave. Quoi. Vous voulez dire qu'on va parler des films qui passent dans la semaine?
Qui passent à la télé, dans la semaine,
d'accord,
oui, bien sûr.
Sur
oui.
Les chaînes du...
Sur les chaînes de la télévision.
D'accord.
Du PAF, comme
du PAF,
alors,
de
on
la
commence
TNT.
Par ce soir.
On va commencer par ce soir, oui.
Alors, qui propose quoi?
Moi, j'ai quelque chose.
Moi,
ben,
j'ai un petit truc aussi. Allez-y, Patrick.
Alors, moi c'est pour faire référence à Jean-Jacques, qui adore ce cinéma. Paris 1ère, 21h.
Le Pacha.
Le Pacha, de Georges Lautner, en 67, avec bien sûr, Gabin, Dany Carrel, André Pousse, magnifique André Pousse.
Oui. C'est les seconds rôles magnifiques de l'époque aussi.
Ah oui,
Robert,
oui, oui.
Robert Dalban.
Jean Gaven, Maurice Garrel, Robert Dalban, Louis Seignier. C'est magnifique.
Et ne pas oublier Léon Zitron et Serge Gainsbourg.
Et Serge
dans
Gainsbourg,
leur propre rôle.
Dans leur propre rôle, tout à fait. Voilà. Bon, alors bon, l'histoire, c'est l'histoire d'un vieux commissaire qui est chargé d'élucider un braquage dans lequel un vieil ami a trouvé la mort. Il décide de se venger, d'en finir avec le truand, Quinquin. Qu'il soupçonne d'être l'auteur du méfait.
Il est à la Gabin. Il est à la Gabin. J'ai dit n'importe quoi. Il est à la retraite dans peu de temps, Gabin.
Il est à la retraite dans peu de temps. Oui, c'est ça, le commissaire.
Et
oui.
Moi, j'avais le même. Hein. Donc, Anne-Lise.
Moi, j'avais sur l'équipe TV à 21h. Oui. Mais qui a tué Pamela Rose, Derek Lartigo avec Cadmea et d'Olivier Barou.
Oui.
Et Gérard Darmon sur un film qui est plutôt, comment dire, de l'humour noir.
De l'absurde.
De l'absurde, voilà, plutôt.
Oui, pas de
l'humour. Voilà, moi j'aime très bien
ça. Moi aussi. Je suis d'accord. On le verra ensemble si vous voulez.
Bah, si vous voulez.
Allez, d'accord.
Écoutez, pas.
Bah, d'accord,
bon.
J'amène les crêpes.
Voilà. Allez.
Alors on passe à mercredi, tiens.
Mercredi.
Alors, mercredi,
j'ai strictement rien.
Moi j'en ai un.
Moi j'en ai un.
Bon, allez-y.
Allez-y, allez-y.
J'ai sur Citer à 21h, Slumdog Millionnaire de Darry Boyle, sur un garçon, un jeune garçon qui gagne.
Mais qui veut gagner des millions.
Qui veut gagner des millions et qui gagne.
Et qu'on se demande comment il a fait, lui, le QTE.
Voilà, pour arriver
à avoir les réponses.
À avoir les réponses. C'est avoir une telle culture générale.
C'est un film indien.
Oui. Alors c'est Danny un Boyle. Film. Oui, voilà. Un film américain. Oui. Américano.
Comment on dit un film indien vaut mieux que de Tulor.
Très bien. C'est très très
bien,
très.
Alors,
bien.
Mais vous, Patrick.
Moi sur TMC Cinéma 20h50. Oui. Un film en hommage à Jean-Jacques encore une
encore
fois. Oui. Ça s'appelle L'homme de la plaine.
Ah bah oui.
Ah oui, d'accord.
d'Anthony Mann avec James Stewart, Arthur Kennedy, Donald Cripps. Voilà, c'est l'histoire encore une fois Western, chez les Westerns Western. D'une vengeance d'un homme qui veut c'est trouver les tueurs de son jeune frère. Voilà.
Voilà. D'accord. Jeudi.
Moi, j'ai rien.
J'en ai un.
Moi, j'en ai un aussi, en hommage à Jean-Jacques.
Ah. Encore ?
Oui.
Alors, je vais vous donner le mien d'abord, comme ça, on s'en débarrasser. C'est sur TFX. C'est pour les gens qui se couchent tard, Annie.
Ah, d'accord.
À 23h15.
Oula, oui.
TFX. Ready Player One. Film de science-fiction de Steven Spielberg de 2018. Oui, c'est pas très connu. Hein.
Je ne connais pas.
Alors, il nous ramène ce bon Spielberg en 2045 sur la planète Terre, enfin, ce qu'il en reste. Pas grand-chose. Il est question dans le film de réalité virtuelle, de chasse à l'œuf de Pâques numérique et de monde parallèle. Voilà, tout ça, c'est de la science-fiction à la sauce Spielberg. Ready Player One, 23h15, TFX.
Très bien.
Patrick
Moi, j'ai donc un film en hommage à Jean-Jacques.
Oui, bien sûr.
Sur Ciné Plus Classique, à 20h50.
Oui.
Mario Monicelli, 1958.
Ah, le pigeon.
Le pigeon, bien sûr. Mario Mastroianni, Vittorio Gassman.
Ah, si un film à voir, c'est celui-là.
Ah, voilà. Ça, si un film à voir dans la semaine, c'est celui-ci.
Magnifique.
Donc, Ciné Classique Plus, à 20h50. Bon, voilà. C'est l'histoire d'un mec qui
de va... De bras cassés qui tente...
Un bras cassé qui tente un cambriolage.
Qui va rater
misérablement. Comme c'est un bras cassé. Ça,
mais il faut signaler surtout, vous allez peut-être le dire, que c'est l'apparition, les premières apparitions à l'écran de ces... flopé d'acteurs et actrices qui vont nourrir le cinéma italien dans la décennie
depuis,
qui ouais, suit.
Tout à fait.
Puisque dans le film, on retrouve...
Marcello Mastroianni.
Vittorio Gassman,
Renato Salvatori et Claudia Cardinale.
Claudia Cardinale. Oui, très bien, bien à sûr. Voir, absolument, ce film. Si vous ne l'avez pas déjà vu. Bon, on en magnifique. Est où, là? On est à
vendredi. Vendredi, bonjour.
Bon,
c'est un remake.
Je vous donne le mien.
Oui, allez-y.
Jean-Jacques.
Alors, c'est à 21h05 sur France 3. Les Sept Mercenaires d'Antoine Foucault de 2016. Alors, c'est un remake, c'est peut-être celui-là dont vous parlez.
Tout à fait, de 1960.
Oui, celui de John Sturges, qui était lui-même inspiré du film Les Sept Samouraïs
d'Akira
Kurosawa. Avec Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke.
Ah oui.
Et vous savez, c'est dans ce film où Yul Brynner avec Steve McQueen parle de ce type qui tombe du haut d'un immeuble et qui dit juste qu'il va
bien. Est-ce que vous disiez jusqu'ici, tout va bien?
Oui, oui, c'est dans ce film. Oui.
D'accord.
Voilà, c'est donc sur...
sur France 3, 21h.
Exactement.
D'accord.
Et vous, Patrick?
Moi, sur Ciné Plus Festival, à 20h50, en hommage à Jean-Jacques.
Oui, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Oui, ça va faire beaucoup.
Un film de... Alors, je vous donne le nom du réalisateur, vous allez trouver le titre. Florian Henkel von Donnersmarck.
Allez, La vie des autres.
La vie des autres, bien sûr. Magnifique film. Vraiment oui, un des plus beaux films que j'ai vus ces dernières années.
Police,
un film de 2006. C'est un flic de la Stasi qui est chargé d'enquêter sur les agissements présumés d'un dramaturge et de sa compagne. Mais au fur et à mesure de son enquête, il va s'apercevoir que ses convictions vacillent en même temps que le gouvernement est-allemand. Et c'est un film extraordinaire.
C'est vrai, je confirme. Bon, nous arrivons au week-end. Samedi, moi, j'ai rien. Dimanche non plus, d'ailleurs.
Samedi, un petit oui aussi.
Oui, là, un petit.
Patrick, allez-y.
Moi, j'en ai un petit, parce que j'adore le réalisateur, qui s'appelle Emmanuel Bourret.
Oui.
Et c'est pas en hommage à Jean-Jacques pour une fois.
Très bien.
C'est sur France 4 à 21h. Ça s'appelle Un baiser s'il vous plaît d'Emmanuel Mouret avec Virginie Ledoyen, Emmanuel Mouret, Julie Gayet. Voilà, c'est le marivaudage habituel chez Emmanuel Mouret, qui est bavard mais toujours très très fin et très laconique. J'aime beaucoup ce mec.
D'accord. Et Annelise,
moi, Canal Plus sur 21h, un petit truc en plus.
Sur 21h.
Canal Plus à 21h.
D'accord.
21h sur Canal Plus,
oui,
on va y
j'en
arriver.
Ai compris, oui.
Un petit truc en plus de Artus. Le film qui est sorti sur...
qui fait un tabac, d'ailleurs, au cinéma.
Sur des gens handicapés, avec des personnes handicapées. Et c'est un chouette film. C'est très humain. Et le handicap, il ne le prend pas à la rigolade, mais si, en même temps.
Oui, voilà.
Mais il s'intègre dans le lot. C'est-à-dire comme
il ne fait pas de pathos, quoi.
Voilà, comme si tout le monde avait un petit truc en plus et ces gens-là avaient... D'accord. Juste un petit truc.
D'accord.
Voilà.
Bon, on passe à dimanche.
Alors, dimanche,
rien.
Moi, j'ai.
Moi aussi.
Oui, ça n'a pas l'air bon. Arte, enthousiasmant.
Bah oui.
Arte, 21h.
C'est le même, oui.
Si je vous dis Alfred Hitchcock, 1955.
L'homme qui en savait trop.
Non.
La main au collet.
La main au collet, oui, bien sûr, Annelise, bien joué.
Cary Grant,
Grace Kelly, Charles Vanel, Jesse, Royce Landis. On vous fait le pitch ou ça va?
C'est le film qui a permis à Grace Kelly de redevenir sur la côte d'Azur et de...
Et de rencontrer le prince Rainier.
Le prince Rainier,
oui. Parce que, voilà.
Très bien,
magnifique,
ça c'est magnifique.
C'est un superbe film, ça.
On va arrêter de pleurer, on va passer maintenant à lundi.
Bah, j'en ai
pas. Bah, moi j'en ai un.
Bah, aussi. Allez-y.
On va écouter, sur Arte.
Non, pas du tout.
À 22h55, c'est pour les gens qui se couchent tard, Annelise.
Oui.
Quand les aigles attaquent.
Encore ?
Film de guerre de Brian Hutton de 68, voilà.
Alors, ça on avait déjà parlé la semaine dernière.
C'est vrai ? J'étais pas là, c'est pour ça. Donc, vous savez, donc, on se retrouve en 43-44 avec un commando des services de renseignement britanniques qui est parachuté sur l'Autriche pour aller libérer un général américain prisonnier d'une forteresse nazie. Voilà, c'est avec les grandes performances de Richard Burton et Clint Eastwood.
Et Clint Eastwood qui joue un autre personnage qu'un western.
Ah oui, très bien. Il y a un flic d'ailleurs.
Moi, sur Ciné Classique, à 20h50.
Oui, à quelle heure?
À 20h50. D'accord. Un film de Sidney Pollack de 1982 avec Justin Hoffman, Jessica Lange, Bill Murray. J'ai dit. Tutsi.
Tutsi, voilà.
Ah oui, bien sûr, un comédien talentueux, mais génial film, absolument. Ouais. Bon, voilà, il devient célèbre en prenant le rôle d'une jeune femme, Dorothée, et puis voilà.
D'accord.
Et ça se complique quand il tombe amoureux de Judy, l'autre héroïne de la série dans laquelle il tourne.
Ok, on a fait le tour.
C'est tout pour moi.
Allez, on repart alors.
On repart au cinéma.
Allez.
D'ailleurs, à croire que le cinéma conserve. En 2015, le réalisateur Francesco Rosi nous quitte à l'âge de 92 ans.
Ah oui,
très bien.
L'acteur Christopher Lee à 93.
Oh là, oui.
Maureen O'Hara, l'inoubliable Marie-Kate Danaher de L'Homme tranquille à 95 ans.
Ah bah, dites bien.
La palme revient au réalisateur portugais Manuel de Oliveira qui décède le 2 avril. Dans sa 106e année, s'il vous
plaît. Je crois qu'il avait tourné son film deux ou trois ans.
Oui, c'est ça.
Il avait vraiment. Il est allé jusqu'au bout du bout. Alors, cela dit, la rentrée de septembre s'ouvre par un record.
Ah.
Le 9 septembre, la reine Elisabeth II bat celui de la longévité sur le trône britannique, record détenu jusque-là par la reine Victoria. God save the Queen.
Et à nouveau un jour tragique en France. Voilà, le 13 novembre, une série d'attentats fait 131 morts et 413 blessés. On dénombre 90 victimes dans la salle du Bataclan.
Terminons l'année sur une nouvelle positive quand même. En Arabie Saoudite, le 12 décembre, ont lieu les élections municipales. Ah. Et c'est le premier scrutin ouvert aux femmes.
Ah, quand même.
C'est tardif, hein,
bah,
2015, mais ça progresse un peu. Voici ce qu'on disait Euronews.
Avancée politique et sociale historique en Arabie Saoudite, les femmes ont désormais le droit de vote. Les femmes pourront aussi se présenter aux conseils municipaux. Je crois que grâce à ces décisions, déclare cette professeure de sociologie politique, il va être permis à la femme saoudienne, et pour la première fois dans l'histoire de l'Arabie Saoudite, d'avoir un espace de participation politique. Mais en pratique, et alors que seule la moitié des sièges des assemblées locales sont désignés au suffrage populaire, le droit de vote aux femmes ne va pas changer grand-chose. Honnêtement, j'ai vraiment cru au début qu'il s'agissait d'une blague. Dans une société comme la société saoudienne, où personne ne peut influer sur la vie politique, et la réalité est celle d'une dictature totale. Alors vous savez, donner le droit de vote aux femmes, voter pour quoi? Ah oui, voter pour diriger le voisinage local.
Pourriez-vous être assez aimable à l'heure qu'il est, au jour où nous sommes, et étant donné ce que nous savons, de me dire sur quelle longueur d'onde on vous attrape?
Alors attention, c'est sur 91.3 Eau de Radio. Oui, bien entendu.
Vous êtes sûr?
Oui.
En décembre 2015, sort en avant-première à Hollywood un film hallucinant d'Alejandro González Iñárritu. Ce film, c'est The Revenant. L'histoire tragique et romancée de Hugh Glass, un trappeur qui est laissé pour mort par ses compagnons, mais il va revenir. Le film est partiellement adapté du roman de Le Revenant de Michael Punk, mais Iñárritu s'éloigne un peu de la véritable histoire du trappeur et s'arrange avec la réalité pour donner un film plein de fureur, de mort, de bataille, de fuite, de trahison. Un film comme il y a longtemps que je n'en avais pas vu.
Hugh Glass est donc un trappeur. Dans cette Amérique profonde, sauvage, il est sévèrement blessé et laissé pour mort par un traître de son équipe, John Fitzgerald. Avec sa seule volonté pour unique arme, Glass doit affronter un environnement hostile, un hiver brutal et des tribus guerrières, dans une inexorable lutte pour sa survie, portée par un intense désir de vengeance. On remarque tout de suite que ce n'est pas une petite comédie romantique.
Non, parce que la violence est partout. Chez les hommes, bien sûr, mais aussi chez les animaux. Ah. Il faut voir, vous savez, Patrick, là, cette fameuse séquence de l'attaque de la maman grise.
Oh là là, oui.
Oui, mais la violence est aussi dans la nature elle-même. On l'a dit, celle-ci est sauvage, glaciale. Les torrents et les rivières filmées à fleur d'eau témoignent de la fureur des éléments.
Alors Iñárritu ne nous aime pas et ne cherche pas à rendre le personnage de Glass sympathique. Celui-ci est violent comme les autres et dans la première partie du film, il ne songe qu'à sauver ce qui peut l'être, sa peau et celle de ses compagnons d'armes. Mais il nous donne à voir des images à couper le souffle, des plans en steadicam d'une précision redoutable, lumière naturelle, et oui, il n'y avait pas du tout de projecteur sur le tournage, froid réel et tout concourt pour donner un balai mortuaire implacable.
Et bien sûr, il y a Leonardo DiCaprio dans sans doute l'un de ses plus grands rôles, celui de Hugh Glass. Il est méconnaissable, blessé dans sa chair et dans son âme, tourmenté et déterminé à survivre. Il a logiquement remporté l'Oscar du meilleur acteur en 2015. On ne peut pas dire qu'il l'a volé. Écoutez ce que disaient du film Alessandro Iñárritu et Leonardo DiCaprio.
Le favori pour les Oscars s'est impliqué totalement dans cette histoire de trappeur, attaqué par un ours et laissé pour mort par ses compagnons. Une histoire inspirée de faits réels devenue mythique. Elle avait déjà offert un grand western crépusculaire dans les années 70. The Revenant réinvente cette histoire de survie et de vengeance en se confrontant à une nature des plus hostiles. C'est le rôle le plus physique de Leonardo DiCaprio.
Nous savions à quoi nous attendre en nous engageant, que nous tournerions dans des endroits sauvages. Alejandro voulait que ce soit une immersion proche du documentaire. Il faisait moins de zéro, mais je crois que nous en avons tiré quelques séquences qui, à mon sens, sont du grand cinéma.
Nous nous sommes minutieusement préparés pendant des mois et puis est venu le temps du chaos. Il fallait le maîtriser. Grâce à notre préparation, nous avons pu improviser ou nous adapter. Chaque jour était un défi.
D'une maestria technique invraisemblable, il est difficile d'y trouver une chose à redire. De la direction d'acteur impeccable à la sublime photographie, de l'audace de chaque parti pris au cadrage tarkovskien, obsédant, de la bande originale atmosphérique à la majesté des décors. Lorsque la violence physique de ses protagonistes se transforme en violence psychologique pour le spectateur, The Revenant a déjà gagné la partie.
Eh ben dis donc, vous êtes dit tyran.
J'ai adoré ce film.
Bon, alors ce film, justement, a été en grande partie tourné en Colombie-Britannique et dans l'Alberta. C'est des provinces.
Des provinces, oui. Proche du Canada.
Iñárritu a fait subir alors à ses équipes des conditions de tournage pour le moins compliquées, n'est-ce pas ? De la neige, du blizzard, de la glace et des températures de moins 30 degrés. Alors le film a cette approche réelle de la dure vie des trappeurs du coup. Hein.
Oui, alors ah, même oui, que bah, par moment la neige ayant fondu, ils ont été obligés de se réfugier en Argentine pour trouver de la neige sur les hauteurs. Bon alors pour autant, c'est un film controversé. On en parlait en off avec Anne-Lise. Certains donnant à penser que tout a été fait pour que DiCaprio soit mis en avant au détriment de la vérité historique. Chacun y verra ce qu'il veut voir. Pour moi, ça reste un film intense et grandiose. Et alors, le thème musical est signé Ryuichi Sakamoto.
Quelle ambiance.
Et oui, magnifique. Hein.
Oui, enfin, c'est magnifique.
Oh, bah, moi, j'aime bien.
Ça. Ah, on est dans le film, oui. Hein, vraiment.
Oui, oui, oui. Oui.
Alors, oui. Que nous raconte le cinéma de cette année-là?
Oui, de 2015.
Et de 2015.
Eh ben, vous allez nous lire.
Eh bien, pas mal de choses. Alors, même s'il faut bien l'avouer, ce n'est pas l'année la plus emblématique. Bon. Alors, si l'on se réfère en nombre d'entrées, nous pouvons dire que 2015 compte parmi les plus bas...
Nombre d'entrées, oui, certainement.
En nombre d'entrées, depuis oui. 1967, attends, avec 209 millions de spectateurs.
De spectateurs, oui, d'accord. Oui. Et après
mais vous allez vous comptez redire tout ce que je dis?
Non, oui,
non, mais autrement, je vous laisse, allez-y. Je vous laisse
faire. Je ne comprends pas tout bien ce que vous dites, alors il me le répète.
Ah, c'est pour ça. Ah, mais car il faut toujours un mais, le oui. niveau reste le plus élevé en Europe, par contre. Ah, bah, voilà, c'est quand même pas mal. Hein. Pour le seul mois de décembre, oui. pendant lequel est sorti le dernier Star Wars, la fréquentation a atteint 25 millions d'entrées, soit le deuxième mois le plus fort depuis 35 ans, selon les estimations du CNC.
Oui, mais alors quels sont les films les plus vus?
Mais je ne sais pas du tout.
Eh bien, trois sont américains.
Trois
Star
américains.
Wars, Le Réveil de la Force.
Star Wars.
Les Mignons.
Mais non, Les Mignons.
Et Jurassic World.
Mais très bien.
Le premier film français, oui, c'est quoi l'aventure alors... d'Aladin, n'apparaît qu'en septième position. Mais oui, il y a toujours un oui, mais oui. 189 projets de longs métrages d'initiative française ont été recensés en 2015. Cocorico, un niveau jamais observé. Youpi! Oui, mais alors beaucoup de ces films ont été tournés à l'étranger.
Oui.
Bon, alors de façon globale, ça donne 158 films français sortis sur l'année. Contre 414 films américains. Voilà.
Alors, parmi la production, eh bien, on retrouve Mad Max, Fury Road, de George Miller, oui. qui totalise 270 000 entrées le jour de sa sortie.
Pas mal.
Il occupera, oui, c'est pas mal, hein, il occupera d'ailleurs la première place du box-office pendant deux semaines. Il remportera 6 Oscars.
Lesquels?
Je vous le dirai plus tard.
D'accord.
2015 a été aussi une année particulièrement riche en films d'auteurs et en productions indépendantes. Oui. The Revenant, on en a parlé, oui. d'Alejandro González Iñárritu, a captivé les spectateurs par sa beauté visuelle et son réalisme brutal.
Pendant ce temps, hein, en France, oui. Au Festival de Cannes, le prix d'interprétation masculine est décerné à Vincent Lindon pour le film La loi du marché,
mérité.
Réalisé par Stéphane Brisé. À cette occasion, le gagnant fait un discours émouvant lors de la cérémonie de clôture.
Le prix est décerné à Vincent Lindon pour ce rôle dans La loi du marché.
William Faulkner disait « Faites des rêves immenses ». Pour ne pas les perdre de vue en les poursuivant. C'est la première fois que je reçois un prix dans ma vie. C'est un acte politique de mettre un film comme celui-là et d'autres films qui parlent de nos contemporains, des gens qui nous entourent. Et je voudrais leur dire que ce prix, je leur dédie à tous ces gens qui sont pas toujours considérés à la hauteur de ce qu'ils méritent et qui sont les citoyens qui sont un peu laissés pour compte. Et je leur dédie ce prix avec tout mon cœur, et aux acteurs qui ont joué avec moi sans qui je ne serais pas là. Et je voudrais aussi embrasser les deux personnes que j'aime le plus sur la Terre, qui sont mon fils, Marcel, et ma fille, Suzanne. Et aussi une pensée pour ma maman qui n'est plus là, et mon père qui n'est plus là. Et quand je pense que j'ai fait tout ça pour qu'ils me voient, et ils ne sont pas là. Voilà.
C'est trop beau.
Oui.
Ah, c'est fort.
Ouais. Alors... Comment ne pas revenir sur l'un des événements majeurs du cinéma mondial en 2015, la sortie de Star Wars, le réveil de la force.
Oh.
De la force. Ce septième épisode de la saga mythique a marqué le grand retour de la franchise sous la houlette de Disney, après l'acquisition de Lucasfilm. Eh oui, il a connu un succès phénoménal rapportant plus de 2 milliards de dollars dans le monde entier et devenant le troisième film le plus rentable de l'histoire du cinéma à
c'est
l'époque.
C'est quoi les deux premiers?
Je vous le dirai après. Il a su capter la nostalgie des fans tout en introduisant de nouveaux personnages qui ont séduit un public plus jeune.
Et en parallèle, Jurassic World, la continuation de la saga Jurassic Park, a aussi cartonné au box-office mondial avec plus de 1,6 milliard de dollars de recettes. Oui, tout ceci montre la prépondérance des franchises qu'on le veuille ou non, et des films à grand spectacle, qu'on le veuille ou non, dans l'industrie cinématographique contemporaine.
Et alors, durant l'été 2015, le chanteur jamaïcain OMI, que je ne connais absolument pas, fait un malheur outre-Atlantique avec sa chanson Cheerleader, remixée par un DJ allemand.
Motivation. My one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She walks like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah. Cause I'm the wizard of love, and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really. Cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Me love and affection, baby, did I mention you're the only girl for me? No, I don't need a next one. Mama loves you too, she thinks I made the right selection. Now all that's left to do is just for me to pop the question. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. Is always right there when I need her.
Tiens, tiens, bonsoir. Alors, t'étais aux premières loges ? C'est génial ce genre de spectacle, hein ?
Ça, c'est vrai, ça !
Allez, vous l'avez reconnu, ce petit jingle sur les sorties de demain. C'est donc les sorties de films qui vont sortir sur grand écran au cinéma.
Dans les salles. Ça sert de préparer ces textes. D'accord.
Oh là là, ça y est, parce que vous bafouillez pas.
Moi, jamais.
Parce que c'est vrai que tout à l'heure, c'était tout à fait bien. Bon. Allez.
Bon, qui c'est qui sort demain ?
Ben,
alors, pour aller voir les films, vous, Patrick ?
Moi, je veux bien sortir.
Et vous allez aller voir quoi ?
Alors, j'ai deux choix possibles.
Oui, allez-y.
Est-ce que j'ai le temps ?
Oui.
Alors, je vais commencer par le premier. Voilà. Un film de Louise Courvoisier.
D'accord.
Avec Clément Favot, Maïwenn Barthélémy et Luna Garrett. Totten, 18 ans, passe le plus clair de son temps à boire des bières et écumer les balles du Jura avec sa bande de potes.
Ah, oui.
Mais la réalité le rattrape, il doit s'occuper de sa petite sœur de 7 ans et trouver un moyen de gagner sa vie. Il se met alors en tête de fabriquer le meilleur comté de la région, celui avec lequel il remporterait la médaille d'or du concours agricole et, accessoirement, 30 000 euros. Le film s'appelle Vin Dieu. Et pourquoi ça s'appelle Vin Dieu ? Ben parce que c'est une expression qu'il n'arrête pas de dire pendant tout le film. Vin Dieu. Et c'est un film d'une très 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 émouvant, très beau, très poétique, avec un personnage de Clément Favot.
Mais attendez, Patrick, vous l'avez vu ce film ?
J'ai vu la bande-annonce, ouais.
Ah,
mais il est sort demain, donc je n'ai pas
alors,
encore
faut
vu.
Alors, préciser, la bande-annonce
est... La bande-annonce est très très intéressante et très représentative du film, je pense.
Annelise.
Voilà, Annelise.
Eh bien moi, ce n'est pas un film, c'est un documentaire.
Merci, c'est bien aussi.
Qui s'appelle « Guérilla des FARC, l'avenir a une histoire ». de Pierre Karl sur, en fait, ça raconte il raconte les 50 années de vie de la guérilla colombienne à travers les portraits d'hommes et de femmes qui ont pris les armes pour en fait des militants pour se révolter et qui en sont sortis aussi, qui sont sortis du maquis. D'accord. Et donc on a un peu tous ces retours de
beaucoup.
Bah, oui, c'est un documentaire qui dure une heure et demie, durée, qui raconte un peu la vie de ces combattants et leur sortie aussi du maquis sans concession en fait de militantisme. Oui. Et ça a l'air en tout cas un documentaire très fort.
Très bien. Et alors moi je voulais vous proposer un film français. Les femmes au balcon de Noémie Merlant.
Noémie Merlant, oui,
c'est son deuxième film en tant que réalisatrice. Je vous donne le pitch, c'est vite fait. C'est trois femmes qui sont dans un appartement à Marseille en pleine canicule et en face se trouve un mystérieux voisin qui est objet de tous les fantasmes des trois femmes, quoi. Qui vont se retrouver coincées dans une affaire terrifiante et délirante avec comme seule quête leur liberté. Voilà, ça mêle la comédie et le fantastique. C'est pas mal.
Ouais,
c'est avec Souheila Yacoub, Sandra Codreanu et Noémie Merlant en personne. Voilà.
Oui, j'ai vu, elle en parlait sur Quotidien l'autre jour, sur TMC, ça avait l'air très intéressant.
Eh bien, écoutez, allez-y.
Moi, j'en ai un petit dernier, alors,
non,
éventuellement.
C'est pas vrai.
Si, je vous assure.
Alors, dépêchez-vous.
Alors, ça s'appelle Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim.
Ah oui.
Hein, okay. De Kenji Kamiyama.
C'est un film d'animation.
Alors, c'est un film d'animation, on est bien d'accord. Ce nouveau chapitre, situé 183 ans dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, explore l'histoire de la maison des Helms, point de marteau, roi de Rohan.
Parfait,
voilà. C'est donc
magnifique. Merci
magnifique.
Patrick.
Je vous en
merci,
prie, Jean-Jacques, ça m'a
Anne-Lise.
Fait très très plaisir. Eh bien, savez-vous quoi ?
Quoi ?
Ben, c'est l'instant, c'est fini.
Ah non.
Mais oui, mais oui. Mais je sais que vous êtes triste. Mais, mais rassurez-vous, nous vous retrouverons dès mardi prochain pour un nouvel opus
sur O2 Radio 91.3, bien entendu.
Bien entendu. Oui. Mais alors, d'ici là, nous allons reprendre une vie que l'on peut qualifier de normale, faite de petites et de grandes choses, de petits et de grands bonheurs. Mais si vous le voulez, vous pouvez nous retrouver sur le podcast d'O2 Radio pour réécouter cet épisode ainsi que tous ceux qui l'ont précédé. Nous allons nous quitter en chanson, comme le veut la tradition, avec celle choisie par notre DJ national. Alors, quelle est la perle du jour, Jean-Jacques ?
Eh bien, le groupe Fröken Elvis, littéralement Madame Elvis, qui est composé de 5 Suédoises, est connu principalement pour interpréter des versions suédoises des chansons d'Elvis Presley.
D'accord.
Et c'est le cas en 2015, puisque nous restons en 2015, avec Psychopathe, l'adaptation de You're the Devil in Disguise, version avec un peu, beaucoup d'humour. Mais pour goûter cet humour-là, encore faut-il parler suédois, n'est-ce
pas ? Oui, ben voilà. Bon, ben il est temps de rendre l'antenne, alors à vous les studios. Et en attendant, bon vent à tous.
Du går som en ängel.
Går som en ängel.
Ser ut som en ängel.
Ser ut som en ängel.
Ler som en ängel.
Men jag ser klart.
Du är en jävla psykopat. Ja, det är du, en jävla psykopat. Jag trodde du var svaret på allt jag någonsin drömt, tills jag kom på dig med en annan som du kysste ömt. Du går som en ängel.
Går som en ängel.
Ser ut som en ängel.
Ser ut som en ängel.
Och ler som en ängel.
Men jag ser klart.
Du är en jävla psykopat. Ja, det är du, en jävla psykopat. Du gav mig heta kyssar och sa att du var min. Men så sa du till tusen andra, nu säger jag försvinn. Du går som en som en ängel.
Ser ut som en ängel.
Ler som en ängel. Men jag ser klart. Du är en jävla psykopat. Ja, det är du, en jävla psykopat. En jävla psykopat. Herregud, snygg men inte smart. En psykopat.
En psykopat.
En psykopat.
En psykopat.
En psykopat.
En psykopat.
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 trodde du var svaret på allt jag någonsin drömt, tills jag kom på dig med en annan som du kysste ömt. Jag trodde du var svaret på allt jag någonsin drömt, tills jag kom på dig med en annan som du kysste ömt. Jag trodde du var svaret på allt jag någonsin drömt, tills jag kom på dig med en annan som du kysste ömt.